Champfort. Qu'un connaisseur de l'humanité et de la foule comme Champfort se mit précisément du côté de la foule et ne se tint pas à l'écart et sur la défensive, persévérant dans ce renoncement philosophique, je ne puis m'expliquer ce fait autrement que de la manière suivante. Il y eut en lui un instinct plus fort que sa sagesse, qui ne fut jamais assouvie, la haine contre toute noblesse de race. Peut-être la haine trop explicable de sa mère, que son amour pour elle lui avait rendu sacré. Un instinct de haine qu'il avait conservé de ses années d'enfance et qui attendait l'heure de venger la mère. Et voici que la vie et son génie et, hélas, le plus fortement peut-être le sang paternel qui coulait dans ses veines, l'avait induit à s'enrégimenter dans cette noblesse, à se sentir son égal pendant de longues années. Mais il finit par ne plus pouvoir supporter son propre aspect, l'aspect du vieil homme sous l'ancien régime. Il fut pris d'une passion violente de faire pénitence. Cette passion lui fit revêtir le vêtement de la populace comme une espèce de cilice à lui. Sa mauvaise conscience venait d'avoir marqué sa vengeance. En admettant que Champfort fût demeuré alors plus philosophe d'un degré, la Révolution eût été privée de son esprit le plus tragique et de son aiguillon le plus affilé. Elle serait considérée comme un événement beaucoup plus bête et n'exercerait pas cette séduction sur les esprits. Mais la haine et la vengeance de Champfort éduquèrent toute une génération. Et les hommes les plus illustres traversèrent cette école. Que l'on considère donc que Mirabeau ait levé son regard vers Champfort comme vers un moi supérieur et plus âgé, de qui il attendait et tolérait les impulsions, les avertissements et les sentences. Mirabeau qui, comme homme, fait partie d'un ordre de supériorité bien différent de celui des premiers parmi les grands hommes d'État d'hier et d'aujourd'hui. Il est singulier que, malgré un pareil ami et avocat, on possède les lettres de Mirabeau à Champfort, le plus spirituel des moralistes soit resté étranger aux Français, de même que Stendhal qui, peut-être parmi tous les Français de ce siècle, a possédé les yeux et les oreilles les plus riches en pensée. Est-ce parce que ce dernier possédait quelque chose qui était trop d'un Allemand et d'un Anglais pour être encore tolérable pour les Parisiens? Tandis que Champfort, homme riche en profondeur et en tréfonds de l'âme, sombre, souffrant, ardent, penseur qui jugea le rire nécessaire comme un remède contre la vie et qui se croyait presque perdu le jour où il l'avait pari, apparaît bien plutôt comme un Italien, proche parent du Dante et de Léopardi que comme un Français. On connaît les dernières paroles de Champfort. « Ah, mon ami, dit-il à Sieyès, je m'en vais enfin de ce monde où il faut que le cœur se brise ou se bronze. » Ce ne sont là certes pas les paroles d'un Français mourant. Deux orateurs. De ces deux orateurs, l'un n'atteint toute la raison de sa cause que lorsqu'il s'abandonne à la passion. La passion seule lui fait monter assez de sang et de chaleur au cerveau pour forcer sa haute intelligence à se révéler. L'autre essaye bien de temps en temps la même chose, présenter sa cause à l'aide de la passion d'une façon sonore, violente et entraînante. Mais il y réussit généralement très mal. Il devient alors vite obscur et confus. Il exagère, fait des omissions et suscite des méfiances à l'égard de la raison de sa cause. Oui, lui-même éprouve alors cette méfiance et par là s'explique ses bons soudains, ses intonations froides et repoussantes qui provoquent dans l'éditoire des doutes sur la sincérité de sa passion. Chez lui, la passion submerge chaque fois l'esprit. Peut-être parce qu'elle est plus forte que chez le premier. Mais il atteint toute la hauteur de sa force lorsqu'il résiste à l'impétueuse tempête de son sentiment, le narguant en quelque sorte. C'est alors seulement que son esprit sort entièrement de sa cachette. Esprit logique, moqueur, qui se joue, et pourtant terrible. De la loquacité des écrivains. Il existe une loquacité de la colère, souvent chez Luther et aussi chez Schopenhauer. Une loquacité qui provient d'une trop grande abondance de formules de concepts, comme chez Kant. Une loquacité qui vient de la joie de tourner d'une façon toujours nouvelle la même chose. On la trouve chez Montaigne. Une loquacité d'une nature perfide. Celui qui lit des écrits de l'autre temps se souviendra probablement, pour ce cas particulier, de deux écrivains. Une loquacité qui produit la joie des mots propres et des belles formes de discours, souvent dans la prose de Goethe. Une loquacité par pur plaisir du bruit et de la confusion des sentiments, par exemple chez Carlyle. À la gloire de Shakespeare. La plus belle chose que je puisse dire à la gloire de Shakespeare, de l'homme, est celle-ci. Il a cru en Brutus sans jeter un grain de méfiance sur cette espèce de vertu. C'est à lui qu'il a consacré sa meilleure tragédie. On la désigne toujours encore sous un titre inexact. À lui, au plus terrible résumé de la haute morale. Indépendance de l'âme. C'est de cela qu'il s'agit ici. Aucun sacrifice ne peut être trop grand. Il faut pouvoir sacrifier à cette indépendance son ami le plus cher. Fût-il l'homme le plus superbe, l'ornement du monde, le génie sans égal. Je veux dire, lorsque l'on aime la liberté en tant que liberté des grandes âmes, et que par l'ami cette liberté est mise en danger. C'est ainsi que Shakespeare a dû sentir la hauteur où il place César est l'honneur le plus subtil qu'il pouvait rendre à Brutus. Ainsi seulement, il élève jusqu'à l'immense le problème intérieur de celui-ci, et de même la force de l'âme qui était capable de trancher ce nœud. Était-ce vraiment la liberté politique qui poussa ce poète à compatir avec Brutus, à se faire le complice de Brutus? Ou bien la liberté politique n'était-elle que le langage symbolique pour quelque chose d'inexprimable? Nous trouvons-nous peut-être devant quelque événement de l'âme propre au poète? Devant une aventure dont il ne voulait parler que par signe? Qu'est toute mélancolie d'Hamlet à côté de la mélancolie de Brutus? Et peut-être Shakespeare connaissait-il l'une comme l'autre par expérience? Peut-être avait-il lui aussi ses heures sombres et son mauvais ange, comme Brutus? Mais quelles qu'aient été les ressemblances et les rapports secrets, Shakespeare s'inclina devant le caractère et la vertu de Brutus. Il se sentit indigné et lointain. Il en a inscrit le témoignage dans sa tragédie. Deux fois, il y a présenté un poète, et deux fois, il a déversé sur lui un tel mépris impatient et ultime que cela a presque l'air d'un cri. D'un cri poussé par le mépris de soi. Brutus lui-même perd patience lorsque le poète apparaît vaniteux, pathétique, importun, comme sont généralement les poètes. Des êtres qui semblent être gonflés de possibilités de grandeur, même de grandeur morale, et qui pourtant, dans la philosophie de l'action et de la vie, arrivent même rarement à la simple équité. S'il connaît son heure, je connais ses humeurs. Éloignez le pantin, s'écrie Brutus. Que l'on retraduit cela dans l'âme du poète qui l'imagina. Les disciples de Schopenhauer. Ce que l'on observe lors du contact entre peuples civilisés et barbares, que régulièrement la civilisation inférieure commence par adopter les vices, les faiblesses et les excès de la supérieure, puis, partant de là, tandis qu'elle en éprouve la séduction, finit par faire passer sur elle, au moyen des faiblesses et des vices acquis, quelque chose de la force que renferme la civilisation supérieure. On peut le constater aussi dans son entourage, et sans voyager parmi les peuples barbares. Il est vrai que c'est mêlé d'un peu plus de finesse et de spiritualité, et sans qu'il soit aussi facile de s'en rendre compte. Qu'est-ce que les disciples de Schopenhauer en Allemagne commencent donc d'abord à adopter de leur maître? Disciples qui, en regard de sa culture supérieure, doivent se paraître à eux-mêmes suffisamment barbares pour commencer par être fascinés et séduits par lui d'une façon barbare. Est-ce par son dur sens des réalités? Par sa bonne volonté d'arriver à la clarté et à la raison, qui souvent le font paraître si anglais et si peu allemand? Est-ce par la vigueur de sa conscience intellectuelle qui supporta, sa vie durant, une contradiction entre l'être et le vouloir, et qui le força à se contredire même dans ses œuvres, sans cesse et sur chaque point? Ou bien est-ce par sa propreté dans les choses de l'Église et du Dieu chrétien? Car en cela, il était net comme pas un philosophe allemand jusqu'alors, de sorte qu'il vécut et mourut en voltairien. Ou bien encore, par ses immortelles doctrines de l'intellectualité, de l'intuition, de l'apriorisme, de la loi de causalité, de la nature instrumentale de l'intellect et de la non-liberté du vouloir. Non, tout cela ne séduit point et n'est pas ressenti comme séduction. Mais l'embarras mystique et les faux fuyants de Schopenhauer aux endroits où le penseur réaliste s'est laissé séduire et corrompre par la vaine inspiration à vouloir déchiffrer l'énigme du monde, mais la démontrable doctrine de la volonté unique, toute cause ne sont que cause occasionnelle de l'apparition de la volonté en tel temps, en tel lieu, La volonté de vie se trouve entière et indivise dans chaque être, même le plus misérable, aussi complète que dans la totalité de tout ce qui furent, sont et seront. Mais la négation de l'individu, tous les lions ne sont en somme qu'un seul lion, la multiplicité des individus n'est qu'apparence, tout comme révolution n'est qu'apparence. Schopenhauer appelle la pensée de l'arc une erreur géniale et absurde. Mais l'exaltation du génie, dans la contemplation esthétique, l'individu n'est plus individu, mais pur sujet de la connaissance, sans volonté, sans douleur et hors du temps. Le sujet, en s'absorbant complètement dans l'objet de la contemplation, se transforme en cet objet même. Mais encore, le non-sens de la pitié et de la rupture rendu possible en elle du principe d'individuation, comme source de toute moralité, sans oublier enfin les affirmations telles que « la mort est en somme le but de l'existence ». A priori, on ne peut pas nier absolument la pensée qu'une influence magique ne puisse partir d'un être défunt. Ces excès et ces vices du philosophe et d'autres semblables sont toujours adoptés en première ligne pour en faire des articles de foi. Car les vices et les excès sont toujours les plus faciles à imiter et n'ont pas besoin d'un long exercice préalable. Mais parlons du plus célèbre des Schopenhaueriens actuellement en vie, de Richard Wagner. Il lui en est advenu comme de bien des artistes déjà. Il s'est mépris sur l'interprétation des personnages qu'il a créés et il a méconnu la philosophie inexprimée de son propre art. Richard Wagner, jusqu'au milieu de sa vie, s'est laissé égarer par Hegel, puis, encore une fois, par Schopenhauer lorsqu'il crut voir dans ses propres personnages le reflet des doctrines du philosophe et qu'il se mit à formuler lui-même par des termes comme « volonté »,« génie » et « pitié ». Néanmoins, il est certain que rien n'est plus contraire à l'esprit de Schopenhauer que ce qu'il y a de particulièrement wagnérien chez les héros de Wagner. Je veux dire l'innocence du plus haut amour de soi, la foi dans la grande passion comme le bien par excellence, en un mot, ce qu'il y a de siegfriedien dans l'allure de ses héros. Tout cela ressemble beaucoup plus à Spinoza qu'à moi, dirait peut-être Schopenhauer. Quelles que soient les bonnes raisons qu'aurait eu Wagner de s'enquérir d'autres philosophes plutôt que de Schopenhauer, le charme auquel il a succombé, pour ce qui en est de ce penseur, l'a rendu aveugle, non seulement à l'égard d'autres philosophes, mais encore à l'égard de la science elle-même. Tout son art veut s'affirmer toujours davantage comme allant de pair avec la philosophie schopenhauerienne qui complète, et il renonce toujours plus expressément à l'orgueil supérieur qu'il y aurait à aller de pair avec la connaissance humaine et la science pour les compléter. Et il y est non seulement poussé par toute la secrète splendeur de cette philosophie qui aurait aussi tenté un Cagliostro. Les attitudes et les affectations particulières des philosophes ont, elles aussi, toujours exercé leur séduction. Schopenhauer est par exemple l'emportement de Wagner contre la corruption de la langue allemande. Mais si, dans ce cas particulier, on pourrait approuver l'imitation, il ne faut cependant pas oublier que le style de Wagner n'en souffre pas moins de toutes les tumeurs et ampoules qui rendaient Schopenhauer si furieux. Et que pour ce qui en est des Wagneriens qui écrivent en allemand, la Wagneromanie commence à se montrer aussi dangereuse que ne le fut jamais toute espèce d'hégélomanie. Schopenhauerienne est la haine de Wagner contre les Juifs qu'il ne sait même pas apprécier à leur valeur dans leur acte le plus fameux. Car les Juifs sont les inventeurs du christianisme. Schopenhauerienne est, chez Wagner, la tentation de considérer le christianisme comme une graine égarée du bouddhisme et de préparer pour l'Europe une époque bouddhiste en préconisant un rapprochement momentané avec des formules si des sentiments christiano-catholiques. Schopenhauerien est le prêche de Wagner en faveur de la pitié dans les rapports avec les bêtes. On sait qu'en cette matière, le précurseur de Wagner fut Voltaire, qui, semblable en cela à ses successeurs, sut peut-être déjà travestir en pitié envers les animaux sa haine contre certaines choses et certaines gens. La haine de Wagner contre la science, cette haine qui parle dans son prêche, n'est du moins pas inspiré par l'esprit de charité et de bonté, cela est certain, et encore moins, comme il va de soi, par l'esprit en général. En fin de compte, la philosophie d'un artiste importe peu, dès lors qu'elle n'est qu'une philosophie ajoutée après coup et ne porte pas préjudice à son art même. On ne peut pas assez se garder d'en vouloir à un artiste à cause d'une mascarade d'occasion, peut-être souvent très malheureuse et pleine de prétentions. N'oublions donc pas que ces chers artistes sont sans exception un peu comédiens, qu'ils doivent l'être et qu'à la longue, ils s'en tireraient difficilement sans comédie. Restons fidèles à Wagner pour ce qui est chez lui vrai et original. Et cela, en demeurant fidèles, nous qui sommes ses disciples, à ce qui chez nous est vrai et original. Laissons-lui ses mouvements d'humeur et ses crampes intellectuelles. Considérons plutôt, avec équité, quelles sont les nourritures et les besoins singuliers que son art a le droit d'avoir pour pouvoir vivre et grandir. Il n'importe pas que, comme penseur, il ait si souvent tort. La justice et la patience ne sont pas son affaire. Il suffit que sa vie ait raison devant elle-même et qu'elle garde raison. Cette vie qui s'adresse à chacun de nous pour s'écrier « Sois un homme et ne me suis pas. C'est toi-même qu'il faut suivre, toi-même. » Notre vie, elle aussi, doit garder raison devant nous-mêmes. Nous aussi, nous devons croître et nous épanouir librement et sans crainte, dans un innocent amour de nous-mêmes, par notre propre personnalité. Et ainsi, en contemplant un tel homme aujourd'hui comme jadis, ces paroles résonnent encore à mon oreille. Que la passion est meilleure que le stoïcisme et la simulation. Qu'être sincère, même dans le mal, vaut mieux que de se perdre soi-même dans la moralité de la tradition. Qu'un homme libre peut être bon autant que méchant, mais qu'un homme assujetti est une honte pour la nature et ne participe à aucune consolation, ni divine, ni terrestre. Et enfin, que chacun de ceux qui veulent devenir libres ne pourra le devenir que par lui-même, et que la liberté ne tombe dans le sein de personne comme un présent miraculeux. Richard Wagner à Bayreuth.